Bonjour à chacun. Permettez-moi de commencer la méditation de ce matin par une histoire personnelle. Quand Anthony et moi, mon mari Anthony et moi, on était étudiants, on habitait à Paris et puis on s'est mariés à ce moment-là. La première année de notre mariage, on a vécu donc à Paris dans un studio de 30 mètres carrés. Donc c'était une seule pièce où on avait tout à l'intérieur. Alors évidemment, quand on l'a aménagé, on a bien réfléchi à la fonction de chaque meuble, chaque chose était disposée à un endroit précis. Et notamment, on avait par exemple un canapé qui faisait canapé le jour, lit la nuit, très confortable. Et puis on avait une table basse qui pouvait s'ouvrir et se déplier, ça devenait une table à manger. Donc voilà, chaque meuble avait une double fonction. Et on a vécu comme ça dans ce 30 mètres carrés, très heureux. Mais en sachant aussi qu'il y aurait certainement plus tard un autre appartement plus grand et qu'au fil de la vie, avec des salaires, on pouvait aller vers quelque chose de plus confortable et plus grand. Et puis quand on a déménagé en 2014, on est arrivé donc ici dans le canton de Vaud, dans un appartement avec une chambre. Alors il a fallu aménager de nouveau différemment cet appartement. On a pu acheter un vrai lit, acheter une vraie table à manger. Et puis le canapé-lit est devenu seulement un canapé. La table basse-table à manger est devenue seulement une table basse. Mine de rien, ça a quand même changé notre quotidien. Finalement, même si notre studio à Paris était agréable, confortable, qu'on y était bien, le fait d'entrer dans ce nouvel appartement, d'avoir maintenant des pièces séparées, ça a complètement changé notre réalité. Et même si on était heureux avant, on ne s'imagine pas du tout retourner dans un 30 mètres carrés comme on l'a vécu à ce moment-là. La réalité avait changé. On l'attendait, mais elle a changé. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que ce matin, on va lire un texte qui nous présente aussi, alors dans une mesure complètement différente de cette petite anecdote que je vous raconte, une histoire qui nous présente comment la réalité a changé à un événement. La réalité d'avant a complètement changé, est devenue une autre réalité. Et puis, aujourd'hui, on ne s'imagine pas du tout revenir dans cette réalité passée. Ce texte qu'on va lire ce matin, c'est un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Et pour ceux qui suivent avec nous les méditations connectées sur smartphone qu'on suit pendant les 2 semaines pour se préparer à Pâques, c'est aussi le texte du jour que vous avez peut-être lu ce matin ou que vous allez lire dans la journée. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle quand je parle de méditation connectée, j'en ferai encore une annonce tout à l'heure, soyez attentifs. Ce texte se trouve donc dans l'Épître aux Hébreux, une épître anonyme, on ne sait pas qui l'a écrite, et qui s'adresse à tous les Hébreux, tous les membres du peuple d'Israël, nous tous finalement, tous les membres du peuple de Dieu, pour essayer de nous expliquer quelle est la bonne théologie, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce que Dieu a voulu nous apporter. Dans les chapitres qui précèdent notre lecture, parce que je vais quand même vous faire un tout petit résumé, sinon on arrive vraiment dans l'épître et c'est un peu difficile de se plonger comme ça dans ce texte, l'auteur nous présente comment l'ancienne alliance, celle de l'Ancien Testament, a tout changé, a complètement changé pour devenir une alliance par Jésus, une alliance en Jésus. Alors notamment, il y explique que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël à l'époque avait des grands prêtres humains qui se succédaient les uns après les autres et qui permettaient de jouer le rôle d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Dans l'Alliance de Jésus, ça change. Il n'y a plus qu'un seul prêtre, un seul prêtre divin. Dans l'Ancienne Alliance, on avait un tabernacle, donc ce petit temple de toile que les Israélites emmenaient dans le désert, et puis ensuite un temple fait de pierre qui avait été construite par les hommes. C'était la manière d'être dans la présence de Dieu. Dans cette nouvelle alliance dont on va parler ce matin, tout a changé. Maintenant le temple est céleste. Et puis le temple, c'est nous, c'est notre cœur. Nous sommes le temple de Dieu. Dans l'ancienne alliance, il y avait toutes sortes de sacrifices d'animaux, de sacrifices d'offrandes végétales, de la farine, des récoltes, qui revenaient tout au long de l'année, c'était très régulé. Dans la Nouvelle Alliance, plus besoin. Il y a un seul sacrifice unique. Et donc, dans cette ancienne alliance, on avait le système, les prêtres, qui présentent des sacrifices. Et dans la Nouvelle Alliance, on a un prêtre qui est en même temps sacrifice, un prêtre qui se donne. Finalement, cette ancienne alliance, elle était très liée à toutes les réalités terrestres. un tabernacle fait de toile, de pierre, des choses de la terre, des sacrifices qui viennent de la terre, les récoltes, les animaux, un prêtre qui vient de la terre, qui est un humain, un être humain. Et dans la nouvelle alliance, quand la réalité change, tout devient céleste, d'une autre nature. Et le fait que Jésus a porté cette nouvelle alliance a finalement purifié tout ce qui se faisait avant par rituel humain. Et c'est là qu'intervient notre lecture, et j'aimerais vous inviter à lire, en ayant en arrière-plan ces quelques mots d'introduction, le texte d'Hébreux 9, les versets 23 à 28, ils seront aussi affichés à l'écran, si vous voulez les suivre sur l'écran. Hébreux 9, versets 23 à 28. S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là, que ceux de l'ancienne alliance. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien, le sang des animaux. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains, nous tous, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes et de femmes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce texte nous parle d'un prêtre d'une autre nature, un prêtre d'une autre nature que celle que nous connaissons. C'est le Christ. Christ, nous dit le texte, n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme. Il n'est pas entré dans ce tabernacle de l'ancienne alliance, dans ce temple de l'ancienne alliance. Non, il est entré dans quelque chose de différent, un sanctuaire qui n'a pas été fait par la main de l'homme, qui est une autre réalité. C'est le ciel même, nous dit le texte. Christ est entré dans le ciel même. Le tabernacle, le temple, n'était qu'une copie de ce ciel, une ombre, nous dit le texte, de ce ciel. Et comme une ombre, quand on voit une silhouette, par exemple, par terre, on en devine les contours, on peut peut-être reconnaître qui se trouve, qui est derrière cette ombre, on reconnaît la personne de cette ombre, mais on ne voit pas les détails à l'intérieur, on ne peut pas savoir comment la personne est habillée, par exemple, ou à quoi elle ressemble plus précisément. Une ombre nous permet seulement de voir les contours, mais pas la précision. Eh bien, c'est ce que le texte nous dit. Cette ancienne alliance, cet ancien temple, tabernacle, même s'ils étaient majestueux, beaux, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'aller voir la base du temple à Jérusalem ou d'autres temples dans d'autres cultures, c'est immense, c'est beau, c'est décoré, mais ce ne sont que des ombres du vrai temple, le temple où se trouve Dieu, le temple céleste. Et c'est de cette réalité que l'auteur veut nous parler. Moi, je crois que lorsque Jésus est entré à Jérusalem sur cet âne d'une façon humble et que les gens ont pu dire « Hosanna, c'est lui le fils de David », ils ont vu quelque chose de cette gloire qui était derrière l'ombre. Ils n'ont pas vu seulement un homme sur un âne qui avait l'air humble d'un point de vue humain. Non, ils ont reconnu que cet homme-là, Jésus, était le roi, le prêtre, celui qui apportait cette réalité qui nous dépasse, cette réalité céleste. Un roi prêtre à la fois. Faite par la main de l'homme, le sanctuaire fait par la main de l'homme. Il y a comme quelque chose d'un peu péjoratif dans cette mention, fait par la main de l'homme. Oui, péjoratif parce que la main de l'homme ne suffit pas à contenir Dieu, à contenir la présence de Dieu. Alors oui, c'est un peu péjoratif parce que c'est insuffisant. Parce que, en comparaison des réalités célestes, ça n'a rien à voir, c'est insuffisant. une simple copie du véritable. Finalement, cette mention faite par la main de l'homme nous montre aussi que si l'homme a construit des choses, a bâti des choses pour essayer de se rapprocher de Dieu, il y avait aussi besoin que Dieu lui tende sa main, que Dieu lui fasse un mouvement vers l'homme pour que cette relation soit complète, pour qu'elle nous permette d'être en relation avec Dieu. Parce que fait Jésus s'il est entré dans ce temple céleste? Qu'est-ce qu'il y fait? Le texte nous dit qu'il y est, il y est entré pour se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie que depuis 2000 ans, Christ se tient auprès de Dieu, d'un Dieu juge, un Dieu dur, un Dieu qui veut une vengeance? Il se tient là pour essayer de plaidoyer pour notre cause, essayer de faire pencher Dieu en notre faveur? Non, je ne crois pas qu'il faut voir comme ça la relation entre Dieu et Jésus. Jésus n'essaye pas de plier le dos d'un Dieu qui serait trop dur pour nous. Non, Jésus se tient là pour apporter nos demandes, apporter nos prières, apporter nos requêtes. Il se tient là, lui qui est juste, pour nous aider à prier devant Dieu. Et il se présente maintenant devant Dieu. Maintenant, ça veut dire aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, à cet instant même, Jésus se tient devant Dieu en notre faveur. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de penser ça? Ce Jésus saint, parfait, qui se tient devant Dieu en notre faveur, à chaque instant, maintenant aussi. Jésus est de toute évidence un prêtre d'une autre nature que les prêtres humains de l'Ancienne Alliance. Il est auprès de Dieu. Et ce Christ, c'est aussi un prêtre qui s'offre, un prêtre qui se donne lui-même en sacrifice, un prêtre sacrifiste. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Non. Maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Encore une fois, on voit un parallèle qui est tiré entre le prêtre de l'Ancienne Alliance et ce Jésus d'aujourd'hui, ce Jésus qui sert d'intermédiaire entre Dieu et nous. Le prêtre de l'Ancienne Alliance faisait des rituels annuels, et même plus que ça, des rituels tout au long de l'année pour le pardon des membres du peuple. Jésus-Christ, lui, il vit un rituel unique. Une seule fois, il se donne et c'est suffisant. Des milliers d'années de rituels contre un seul rituel. Quel déséquilibre! Le prêtre offre un animal ou quelque chose de végétal. Jésus, lui, s'offre lui-même. Il s'offre en cadeau. Le prêtre, il cherche auprès de Dieu un pardon pour les membres du peuple. Jésus, lui, il abolit le péché. Il abolit le mal. Plus besoin de pardon ensuite, plus besoin d'acquérir le pardon ensuite, parce que Jésus l'a fait une fois pour toutes. Quelle différence entre ces deux structures? Ce Jésus qui s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. La mort unique de Jésus nous apporte la fin de notre péché. Et j'aimerais mettre en avant ce mot, le péché. Il abolit le péché. Remarquez que dans le verset, l'auteur parle du péché, au singulier, le péché. Il ne parle pas des péchés, de nos péchés, il parle du péché. Évidemment, vous serez d'accord avec moi, j'espère, sinon je me sentirais très mal, que nous commettons tous encore des péchés. Hochez la tête pour que je me sente mieux. Voilà, merci. Voilà, moi aussi. Jésus n'a pas fini avec tous les péchés, dans le sens où nous tous encore, nous faisons des erreurs, nous mentons, nous trichons parfois, nous ne disons pas toute la vérité, parfois nous mettons d'autres choses à la place de Dieu, nous mettons des priorités là où il ne le faut pas. On a toutes sortes d'erreurs qu'on commet. Et c'est normal, puisqu'on est humain. Jésus n'a pas éradiqué ça de la vie des hommes et des femmes. Jésus, il a aboli le péché, au singulier. On pourrait dire le péché avec un grand P, le mal. Il a mis un terme à ça, à finalement cette puissance de péché qui nous séparait de Dieu, qui nous empêchait d'être en relation avec lui. Il a mis un terme à ça. Et grâce à lui, nous pouvons être en relation. Et même si nous péchons encore aujourd'hui, ou plutôt même quand nous péchons encore aujourd'hui, nous avons cette assurance que Jésus a gagné le pardon pour nous et que malgré nos erreurs, nos fautes d'aujourd'hui, Jésus nous offre le pardon. Et il peut nous l'offrir parce qu'il s'est lui-même offert. Lui-même offre ce pardon. Alors pour nous, finalement, c'est le début d'une nouvelle alliance. Puisque dans ce texte et dans les chapitres qui précèdent, on apprend que l'alliance ancienne n'était pas suffisante, pas assez bonne, qu'il fallait changer cette réalité. Ben, ça veut dire, pour nous, il y a un nouveau contrat entre Dieu et nous. Car l'abolition du péché par Jésus a des conséquences pour nous aussi. On a une contrepartie, malgré tout, dans cette alliance. Ce n'est pas seulement un don, une grâce. Bien sûr, c'est un don, une grâce. Mais Dieu nous appelle aussi à entrer en relation avec lui, à entrer dans ce partenariat de contrat. Alors, c'est tout simplement l'Épître aux Hébreux qui nous donne quelques indications de cette contrepartie que nous pouvons accomplir, et puis bien sûr, le reste de la Bible aussi. Dieu nous invite à le servir. Un peu plus tôt, dans les versets du chapitre 9, dans ce contrat, Dieu nous invite à le servir. D'un côté, c'est une demande qu'il nous fait, de nous mettre à sa disposition pour le servir. D'un autre côté, c'est une grâce qu'il nous fait, de nous juger dignes d'être à son service, dignes de pouvoir collaborer avec lui pour parler de l'Évangile, parler de Dieu autour de nous, pouvoir collaborer avec lui pour enseigner nos enfants dans ce qui est de la foi, dans ce qui est de Dieu, de la Bible, dignes de collaborer avec lui, de le servir. Il nous dit aussi qu'il inscrit sa loi dans notre cœur. De nouveau, un parallèle entre l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, la loi était écrite sur des tables de pierre. Nouvelle alliance, elle est inscrite dans nos cœurs. Elle est en nous. Nous avons cette certitude de la loi dans notre cœur. Dieu pardonne nos péchés, ça vient aussi plus tard dans le texte, et cette fois au pluriel. Dieu pardonne nos péchés, il a pardonné le péché et puis il pardonne chacune de nos erreurs de chaque jour. Et Dieu, c'est magnifique, nous invite à une relation personnelle avec lui. Voilà les invitations de cette nouvelle alliance, notre part du contrat, parmi d'autres choses. Alors évidemment, peut-être vous vous dites, oui, c'est évident, tout ça j'avais très bien compris, parce que je connais bien ma Bible, ça fait longtemps que je viens à l'église, et c'est vrai que ça peut paraître anodin, ce sont des choses qu'on a entendues peut-être plusieurs fois. Pourtant, je crois qu'il y a quand même un danger qui nous guette dans ces choses anodines, de les laisser légèrement de côté. Si je reviens à mon anecdote de tout à l'heure, on a toujours chez nous ce canapé-lit, on a toujours chez nous cette table basse qui devient table à manger, et on pourrait, pourquoi pas, le soir, rouvrir notre canapé-lit, remettre les draps, sortir les oreillers, le duvet, et puis dormir dans ce canapé-lit en ignorant qu'il y a un lit qui nous attend à côté. On pourrait relever cette table, déplier cette table à manger, et puis la replier ensuite en ignorant qu'il y a une table à manger dans le salon. Ça serait une possibilité, mais ça serait en fait nous priver finalement de choses meilleures pour nous dans notre appartement, mais je fais le lien avec cette alliance. Revenir aux choses anciennes, c'est simplement nous priver de ce que Jésus a porté qui est meilleur, qui est plus confortable, qui est plus agréable, qui nous permet d'aller plus loin dans notre foi. Pour les hommes et les femmes de l'époque qui ont eu cette lettre entre les mains la première fois, écrite sur parchemin, c'était probablement révolutionnaire. Quand Jésus a apporté cette nouvelle alliance, c'était révolutionnaire. D'ailleurs, beaucoup de personnes n'ont pas compris en fait ce que Jésus était venu apporter, tellement ça sortait de leur réalité à ce moment-là. C'était révolutionnaire. Pour nous, comme on a toute l'histoire de la Bible tout à la fois, ça nous paraît anodin et on oublie souvent de réaliser combien c'est majestueux, combien c'est glorieux, combien ça nous permet une foi qui est vivante et en relation avec Dieu. On s'habitue de ces choses-là, finalement. Alors, les bonnes nouvelles du texte ne s'arrêtent pas là. Les bonnes nouvelles du texte continuent. Le texte nous présente Christ comme espérance pour nous. Christ, notre espérance. Le verset 28, je vais le relire, nous dit « Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes et de femmes, puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il y a une espérance majestueuse dans ce verset, c'est celle du retour de Jésus, du retour du Christ. En cette fête de Pâques, la semaine prochaine, mais déjà actuellement on se prépare à Pâques, on est essentiellement tourné vers le passé souvent. On se souvient de ce que Christ a souffert, on se souvient déjà aujourd'hui dimanche des Rameaux de comment il est rentré à Jérusalem, puis de sa souffrance, de sa mort, sa résurrection. Et souvent on s'arrête là dans la fête de Pâques, mais il y a aussi une espérance extraordinaire pour le futur dans la fête de Pâques et dans ce texte. Faire acte de mémoire de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection, mais aussi de son retour qui vient. Moi, ça me fait penser un petit peu à ces fins de films où il y a eu le héros et puis le méchant, c'est un combat pendant tout le film, ces films de super-héros un peu, et puis à la fin, le méchant finit dans les décombres d'un immeuble en feu ou quelque chose comme ça. Et puis la dernière image du film, peut-être vous avez déjà vu ça, c'est une main qui sort des décombres comme ça, et le film s'arrête. Et tout à coup, quand on voit cette image, on se dit oh, « c'est pas fini, il y a autre chose qui arrive, ça va continuer, est-ce qu'il y aura un tome 2? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est finalement le méchant qui va gagner ou le combat va continuer et le gentil va finalement tout remporter ?» Alors, ça me fait penser un peu cette histoire, mais bien sûr pas dans la morale, puisque le mal a été complètement aboli, nous dit le texte, mais dans les émotions, dans les sensations. Tout à coup, avec ce dernier verset de notre passage, on a ce même souffle, oh, c'est pas fini, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose d'autre qui va se passer. C'est la même chose avec l'histoire de Pâques, quelque chose d'autre va se passer. Tout à coup, tout est à nouveau possible, Jésus va revenir. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Eh bien, il apparaîtra sans rapport avec le péché. Il apparaîtra pour faire venir un monde sans péché, ou pour changer ce monde, qu'il devienne sans péché. Un monde où nous-mêmes, nous serons sans péché, purifiés, sanctifiés. Pour nous, ceux qui l'attendent pour leur salut. Ceux qui l'attendent pour leur salut. Voici, dans les derniers mots de ce passage, la contrepartie. La seule mention en fait de ce que nous pouvons faire, l'attendre pour notre salut. Jusqu'ici, le texte nous parlait seulement de bénédiction, déversement de bénédiction, un exposé majestueux de ce que Jésus a fait pour nous, de ce qu'il a fait comme sacrifice, de ce qu'il a fait en tant que prêtre. Mais ici, voici ce que nous pouvons faire, attendre pour notre salut. Ça veut dire placer notre foi en lui. Attendre pour notre salut ne veut pas seulement dire faire notre vie ici-bas, on verra quand il arrive, on attend. Finalement, comme quand on attend quelqu'un, on ne sait pas à quelle heure il va arriver, eh bien on attend chez soi. Non, attendre pour notre salut, c'est aussi attendre avec foi, en mettant notre foi en action. De nouveau, je fais un parallèle avec cette fête des Rameaux. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, certains se sont exclamés « Hosanna, c'est le fils de David !» D'autres ont dit « C'est qui, finalement? Qui est cet homme ?» Et d'autres encore, les pharisiens, les juifs de l'époque, certains juifs de l'époque, n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru la venue de Jésus. C'est notre part du marché à nous d'avoir cette foi qui attend Jésus pour notre salut. Et nous voulons célébrer ce matin, finalement, cette attente aussi. Alors que nous nous préparons à Pâques, dans la semaine qui vient, nous voulons célébrer cette attente, célébrer l'attente de Jésus, son retour parmi nous, sans rapport avec le péché, pour notre salut. Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour pardonner mon péché, mes péchés. Ce matin, rappelons-nous de ça. Tout à l'heure aussi, quand nous prendrons la Sainte Cène, rappelons-nous de ça. Si Christ s'est donné, c'est pour abolir le péché avec un grand P, c'est pour aussi pardonner mes péchés, mes erreurs de chaque instant, mes erreurs de chaque jour. Et par ce sacrifice, Christ nous invite à une nouvelle alliance dans laquelle j'ai ma part du marché à accomplir. J'ai ma part du marché à accomplir. ma foi à mettre en action pour attendre son retour. Et puis les différentes choses que nous avons listées tout à l'heure, une relation personnelle avec Dieu. Et finalement, ce Jésus me promet qu'il reviendra apporter justice et sainteté sur cette terre. La mort de Jésus, son sacrifice, frères et sœurs, est une mort qui nous donne la vie, avec un grand V. Une mort qui nous donne la vie, elle nous rend vivants déjà sur cette terre, car elle nous donne une espérance, elle nous donne une relation avec Dieu, et elle nous donne la vie au-delà, dans l'au-delà, la vie après la mort, la vie éternelle auprès du Père. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Cène, nous rappeler de ses paroles aussi, de ses éléments. Et puis nous prendrons aussi cette Sainte Cène en nous rappelant que Jésus revient, en nous rappelant que ce que nous vivons aujourd'hui est passager et que Jésus revient pour nous apporter quelque chose d'encore bien supérieur, une réalité céleste, une réalité qui est de Dieu, dans la présence de Dieu. Il veut nous l'apporter sur cette terre. J'aimerais vous proposer de prendre quelques instants de prière, en commençant peut-être par une ou deux minutes de silence, que nous puissions réfléchir à ces paroles, réfléchir à ces invitations que Jésus nous donne, à notre part du marché dans cette nouvelle alliance, à ce que Jésus a fait pour nous. Et puis ensuite, que chacun se sente libre d'exprimer sa reconnaissance ou une autre prière à haute voix. Et je terminerai par la prière, puis nous passerons un temps de cène. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Tous ensemble, nous voulons exprimer notre reconnaissance parce que tu es venu et tu as bouleversé notre réalité. Tu as changé notre réalité du tout au tout et nous sommes reconnaissants de pouvoir désormais être dans goûter en tout cas en partie à cette réalité céleste. Merci pour ce que tu as apporté, Seigneur. Merci parce que tu as ouvert une porte qui nous permet d'entrer en relation avec notre Père. Merci parce que tu es venu comme prêtre, mais tu t'es aussi offert comme sacrifice. Tu as tout accompli toi-même, Seigneur, sans l'aide d'aucun autre homme ou femme. Toi seul, tu étais suffisant pour tout accomplir. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous savons bien que ce n'est pas parce que nous le méritions, ce n'est pas parce que nous étions suffisamment bons ou que tu y avais besoin de nous, mais c'est seulement par ton amour. Nous l'avons chanté ce matin. Tu es amour, et dans ton amour, tu es venu nous apporter cela. Oui, merci Seigneur d'avoir fait ce mouvement en direction des hommes et des femmes, d'avoir aussi tendu ta main en notre direction. Et nous voulons saisir cette main ce matin, Seigneur. Nous voulons nous rappeler qui tu es, et nous voulons vivre à ton service pour ta gloire. Amen.